Kinshasa accueille du 21 novembre au 19 décembre la première biennale de l'art contemporain Yango autour du thème avancé. 25 artistes venus d'Asie, d'Europe, des Caraïbes et d'Afrique présentent leurs œuvres dans plusieurs sites, l'Académie des Beaux-Arts, le Centre Wallonie-Bruxelles, l'Institut Français et l'Échangeur de Limité. Au menu, des expositions, installations, performances, ateliers, conférences-débats, workshops et spectacles de musique. La Biennale Yango est un événement de l'agence de production Mutotu en collaboration avec Radio Capi.
Bien, merci de votre fidélité à Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous parlons aujourd'hui de l'encocère cause ou la cécité des rivières. Quelles sont les causes et préventions? La RDC est l'un des pays du monde les plus affectés par cette maladie. Et d'après les spécialistes, c'est l'une des graves complications de cette maladie, l'encocère cause et la cécité. Alors, quelles sont les causes et comment peut-on prévenir cette maladie? Docteur Naomi Awatia est directrice du programme national de lutte contre l'oncocercose et nous avons également dans ce studio Dr Gina Ngumba, responsable des activités de lutte contre cette maladie à Kinshasa. Alors Dr Naomi, la première question est de savoir c'est quoi l'oncocercose?
Merci Monsieur Jody. Donc l'oncocercose est une maladie parasitaire causée par de vers appelés Oncocerca volvulus qui sont transmis à l'homme par la piqûre d'une mouche noire appelée maringouin. Et c'est donc à travers cette piqûre que les personnes sont affectées de l'oncocercose. Comme vous l'avez bien dit, la plus grave conséquence de cette maladie est donc la cécité. Et c'est pour cette raison que cette maladie est également appelée la cécité de rivière.
Et pourquoi la cécité de rivière se manifeste dans ces milieux-là généralement?
La maladie est également appelée cécité des rivières parce que, au fait, le ver, le simili qui transmet le vecteur, les vecteurs donc qui transmettent cette maladie, comme je l'ai dit tantôt, ces mouches noires vivent dans des cours d'eau à courant rapide.
Ok. Et c'est pour cette pas raison, la mousse tétée, non?
Non, c'est très différent.
C'est différent de la mousse tétée.
C'est vraiment différent de la mousse tétée. C'est une petite mouche noire appelée maringouin.
Ok.
En français facile.
Maringouin.
Voilà.
Et d'où est-ce qu'elle vient, cette mouche-là?
Voilà. Ceux de mouches qui ont un tropisme au courant d'eau, à l'eau, à courant rapide, parce que dans ce milieu où cette oxygénation est propice à l'air développement.
D'accord. Alors, docteur Gina, on peut dire que c'est cette mouche pique, c'est à force de piquer quelqu'un au fil des jours qu'on attrape la maladie ou bien comment ça se passe directement après une piqûre?
Tout à fait. Donc, c'est une maladie, comme l'a si bien dit la directrice, mais c'est une maladie cumulative. C'est pour dire que il faudrait un certain nombre de piqûres. Et là, je peux même dire, donc, les personnes qui sont exposées dans une période, donc, d'une année et trois ans, donc une année et trois ans, et de façon régulièrement, donc régulière, vous avez des piqûres. Donc, vous êtes à même de non seulement avoir de maladies, mais aussi de faire, donc, que l'évolution normale de ces filaires qui ont été transmises, de grandir et de constituer vraiment, donc, un bon terrain pour cette maladie. Mais je veux quand même compléter pour dire que pour les gens qui sont en train de suivre, de façon simple, ceux qui suivent dans de milieux reculés, qu'ils sachent que l'oncocercose, en d'autres temps, on peut dire que c'est une maladie qui abîme la peau et détruit les yeux. Elle a parlé des conséquences, effectivement, de la cécité, mais que les personnes sachent que, à travers, donc, la manifestation au niveau de la peau, et puis les yeux, on devient la cécité, et on a précisé la cécité irréversible. Donc, c'est ça qui caractérise cette maladie qu'on appelle oncocercose.
Ok, d'accord. Docteur Noémie, au niveau de la peau, qu'est-ce qui apparaît, généralement?
Voilà, l'oncocercose en train de manifestation cutanée et oculaire.
Okay.
Généralement, au niveau de la peau, on note des démangeaisons qui ne sont pas spécifiques seulement à l'oncocercose parce que le démangeaison, on peut aussi en avoir pour d'autres types de filariose. Mais il y a également le nodule sous-cutané, techniquement appelé l'oncocercome. Ça, c'est spécifique de l'oncocercose. Il y a deux bosses, donc sous-cutanées, qu'on peut retrouver au niveau de la tête, dans toutes les parties où l'os est proéminent sur le corps humain, au niveau de l'omoplate.
Et on peut le sentir à cette,
on peut vraiment le sentir.
Okay.
On peut vraiment le sentir.
Elle peut avoir quelle dimension ?
Elle peut avoir une taille allant jusqu'à 5 mm.
Mmh.
Voilà, mais c'est vraiment quelque chose de perceptible.
Mmh.
Voilà, et on peut vraiment les sentir. Mais il y a également la peau de léopard. La peau de léopard, c'est donc une dépigmentation de la peau, généralement observée au niveau de membres inférieurs. Vous allez sentir que la personne a une peau moins pigmentée. Cela est dit aux lésions des grattages. Au fil du temps, la personne est en train de se gratter la peau et on note une dépigmentation de la peau et ceci est appelé la peau de léopard. Mais vous pouvez
également... Il peut y avoir aussi des taches noires qui apparaissent sur la peau.
Noires, pas du tout dans l'onchocercose. C'est plutôt des taches un peu claires. L'hypopigmentation est caractérisée par des taches un peu claires, plus claires. Ce n'est vraiment pas noir. Voilà. Et enfin, il y a aussi la peau de lézard. La personne peut aussi manifester une peau, peut présenter une peau de lézard. Et cette peau de lézard est due donc à l'épaississement de la peau.
Bien, on retient que la maladie se manifeste là où il y a des rapides et là où il y a une rivière. C'est ça, docteur?
En fait, le vecteur qui transmet la maladie, se trouve dans l'eau à courant rapide. Ça, c'est le vecteur. Comme je l'ai tantôt dit, l'onchocercose est une maladie qui est causée par le parasite appelé Onchocerca volvulus. Mais pour que ce parasite infecte l'homme, il va falloir qu'il y ait un vecteur. Et le vecteur, c'est celui-là qui prend le parasite et l'amène vers l'homme. Donc il faut un intermédiaire que nous appelons vecteur. Et ce vecteur, c'est la simili ou la mouche noire dont on appelle le maringouin. Et c'est ce maringouin qui se reproduise dans le cours d'eau à courant rapide. Pour avoir l'onchocercose, nous avons besoin de notre triade. Il faut le parasite, appelé Onchocerca volvulus. Il faut l'homme et il faut le vecteur. Une fois l'un de trois n'existe pas, il n'y aura pas de maladie.
D'accord. Alors je reviens à Dr Gina. Est-ce que cette maladie est mortelle?
Oui, la maladie, il faut dire que d'emblée, elle n'est pas mortelle, mais c'est une maladie qui cause plutôt des invalidités, comme pour dire que la base d'une discrimination raciale, ou bien donc, on s'est dit que quand on a cette maladie dans la communauté, on se sent un peu plus écarté des autres, et cela, cette condition d'être là, ça peut quand même, donc on s'est dit, de laisser et mal interpréter par la communauté, ça a un peu donc des enjeux, comme on peut dire, social, donc on peut dire donc c'est un peu social, mais mortel, quand une invalidité, et donc on dit une complication est permanente, une invalidité qui est à vie, donc cela on peut dire que ça peut aussi tuer à petit feu, mais d'emblée on ne doit pas dire que ce sont des maladies mortelles, mais c'est plus à cause des invalidités qu'ils causent et puis qui ne sont difficilement réparables, comme on dit, c'est irréversible, qu'on ne peut pas intervenir, on ne peut pas donner un médicament quand on est déjà dans un stade de cécité.
Bien, je reviens à vous tout à l'heure. Le temps d'accueillir les auditeurs qui vous écoutent de partout à travers le pays. Nous avons un premier auditeur en ligne. John nous appelle des Lubumbashi. Vous voulez également participer à cette émission? Composez le 081-890-63-94.
C'est parce que Radio Capé unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Onchocercose ou cécité des rivières, quelles sont les causes et moyens de prévention? John, vous nous appelez des Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour, et je salue aussi l'invité.
Bien, quelle est votre question?
Oui, j'ai trois petites questions à poser à l'invité.
Lesquelles?
D'où vient cette maladie et c'est depuis quand cette maladie a été découverte et par qui? La deuxième question, quoi faire pour l'éviter? Et la troisième question, quel est l'inconvénient de cette maladie et quels sont les symptômes de cette maladie? Ce sont là mes questions là.
Bon, il y a certaines questions dont les invités ont déjà répondu. Bon, ils vont quand même répondre pour vous. Merci d'avoir appelé. Thérèse, vous êtes à Kindou, bonjour.
Ok, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour aussi à nos deux invités. Question est de savoir...
Oui, Thérèse.
Pour lutter contre cette maladie, il y a la lutte préventive ou bien la lutte curative? C'est ça ma question.
D'accord, merci. Docteur Naomi.
Merci. Voilà, merci beaucoup à monsieur John, Thérèse de Kindou. Voilà, à la première question, savoir d'où vient cette maladie. Comme je le dis tantôt, cette maladie est due à un parasite appelé Oncocerca volvulus, voilà, qui est transmis à l'homme grâce aux piqûres de simili. Voilà, c'est une mouche noire qu'on appelle communément maringa. Par endroits dans nos provinces, ces vecteurs ont de noms vernaculaires.
Lesquels par exemple?
Dans le Maniema par exemple, c'est appelé pipi, tobi. Donc ça dépend d'une province à une autre.
Et dans quelle partie du pays où on retrouve beaucoup plus des cas d'oncocercose?
Voilà, il faut dire que l'oncocercose est vraiment endémique en République démocratique du Congo, dans toute la province, mais à deux niveaux différents. On a près de 36 millions de personnes qui sont à risque de développer cette maladie. Notamment, ces personnes sont réparties dans toutes les 11 provinces. La province la moins infectée par l'oncocercose est seulement le Sud Kivu.
Le Sud Kivu
est moins infecté. On a juste une zone de santé, notamment la zone de santé de Minova, qui est concernée par...
Et quelle est la province la plus infectée?
Voilà. En termes de de province plus infectée, voilà, je dirais, nous allons commencer par l'Équateur. Donc l'Équateur, la province orientale. Les Katanga, les Kasaï, eux, les autres suivent.
D'accord. Donc, il demandait d'où vient cette maladie, quoi faire pour l'éviter.
Voilà, il faut dire que qu'est-ce qu'il faut faire dans notre contexte pour éviter cette maladie. Voilà, il existe un programme national de lutte contre l'oncocercose qui a 21 coordinations à travers le pays. Dans le Katanga où M. John habite, nous avons trois coordinations. La coordination Katanga-Sud qui est basée à Lubumbashi, la coordination Katanga-Nord qui est basée à Kamina et la coordination Lualaba qui est basée à Musumba. Ce qu'il faut faire, il faut prendre son mectisant ou ivermectine une fois l'an pendant 15 à 17 ans. Et le mectisant est donné gratuitement à travers le campagne de masse de distribution de l'ivermectine sur toute l'étendue de la province du Katanga, là où l'oncocercose est un vrai problème de santé publique.
Voilà, et Thérèse qui dit... oui, docteur Génard.
Juste compléter la question donc de John par rapport à ce qui a été dit. Il demandait, il parlait un peu de découverte et il veut un peu être très scientifique. Mais à l'intention de John, il doit savoir seulement que l'oncocercose, on a commencé à en parler depuis déjà 1931 et 32. Il y a un monsieur qu'on appelle Issette qui a parlé donc de l'oncocercose volvulus qui est responsable des lésions oculaires graves en Afrique et au niveau des Amériques, on a parlé de Oncocerca sécutiens, donc le monsieur Issette. Mais pour l'histoire, en RDC, c'est depuis 1902 où il y avait pris, on a prélevé certains, donc des exemplaires de maringouins, qu'on appelle maringouins, pipi, on appelle Mbitiré, on appelle à Kinshasa, ont été donc collectés ici, en
ici,
RDC.
Ici, on les retrouve,
en RDC,
on les retrouve où, docteur?
Qui ça?
Ici, à Kinshasa, les maringouins, on les retrouve dans quelle partie?
Le maringouin, elle a dit, c'est question donc d'avoir des rivières à courant rapide, ils se reproduisent là, mais elle a parlé pratiquement ici, l'oncocerco sévit pratiquement dans toutes les provinces de la RDC. C'est pourquoi elle a dit que nous avons implanté 21 coordinations.
Non, je parle particulièrement des Kinshasa. Est-ce qu'il y a
des coins
où vous avez identifié les endroits où cette mouche-là s'est reproduite?
Kinshasa, les enquêtes qui ont été menées, ils ont révélé qu'il y avait 3 zones de santé qui sont endémiques à Kinshasa. Il s'agit de la zone de santé des Binzaozone, la zone de santé de Ntsele et la zone de santé de Mongafula 1. Donc ces 3 zones de santé à Kinshasa sont endémiques et dans ces zones, on procède à un traitement de masse annuel. Donc chaque année, on soigne ceux qui y habitent là. Donc pour dire à John que un monsieur qu'on appelle donc Théobald, qui a donné même son nom donc Simulum Damnosum Théobald, donc la simuli. Donc les échantillons là qu'il a donc auxquels il a donné le nom ont été prélevés en RDC dans les Zouélé.
D'accord. On va accueillir d'autres auditeurs. Platini est en Bandaka. Jean Vital nous appelle de Kalimi. Platini, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama. C'est Platini Mbombo depuis Mbandaka à l'Équateur.
Quelle est votre question, Platini? Platini, la question rapidement.
Merci beaucoup, je dis Daniel Kachama, pour m'avoir accordé la parole. Je salue sur l'intervenant qui est avec vous là-bas au studio. Mais je me suis un peu inquiété parce que lorsque l'intervenant, madame la directrice a dit que la maladie, la conséquence, la pauvreté est plus affectée chez nous à l'Équateur. Donc je me suis un peu étonné. Par rapport à ces maladies-là. Alors, je voulais quand même demander à l'invité qui est là-bas avec vous.
Oui.
Comme nous, à l'Équateur, la maladie, ils ont conséquence là. Pourquoi ça se trouve? Et ça vient d'où? Ça commence où? Alors, qu'est-ce que nous, la population de Mbandaka à l'Équateur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour éliminer cette maladie, comme on a éliminé Ebola chez nous à l'Équateur? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette maladie-là?
D'accord, merci Platini de Mbandaka. Jean Vital nous appelle de Kalemi au Katanga. Bonjour.
Bonjour, c'est le journaliste.
Quelle est votre question, Jean Vital?
Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'avez offerte. Je salue en passant les deux invités qui sont avec vous dans le studio. Et je vous appelle depuis Kalemi au Katanga. J'ai juste une seule question. Je voudrais savoir quels sont les signes cliniques de cette maladie et est-ce que cette maladie est tellement mortelle et comment peut-on la traiter? Merci.
Bien, merci. Les invités ont déjà répondu à ça, mais ils vont revenir quand même pour vous. Jean-Pierre nous appelle de Kasumbalesa au Katanga. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question, Jean-Pierre?
Oui, je ne sais pas si ma question a été posée par un autre auditeur parce que le signal vient d'être coupé ici chez nous. On ne vous suit plus. Bon, ma question est de savoir, la maladie, l'oncocercose, est une maladie incurable ou pas? Et la personne atteinte par cette dernière devient aveugle ou pas? C'est ça ce qui est mes préoccupations.
D'accord. Merci Jean-Pierre pour vos questions. Revenons d'abord à Thérèse qui a posé la question de parler de la lutte préventive ou curative. Docteur Naomi, qu'est-ce que vous pouvez dire, Thérèse?
Oui, et comme je l'ai dit tantôt, j'aimerais pour besoin de bonne compréhension de tous les auditeurs clarifier que la lutte contre l'oncocercose peut être menée par des stratégies. L'on peut mener la lutte antivectorielle, voilà, qui consiste à la pulvérisation de larvicide sur le simili dans le gîte larvaire.
C'est-à-dire,
on s'attaque au vecteur. On s'attaque à l'hôte qui transmet la maladie chez l'homme.
On va pulvériser dans
toutes
les rivières.
On va pulvériser dans le rivière où le vecteur se reproduit, là où il naît, pour éviter que le vecteur existe et soit à même de transmettre la maladie.
Est-ce que c'est là que fait, docteur?
Mais ça, c'est une stratégie qui coûte énormément cher. Mais une stratégie qui a été utilisée en Afrique de l'Ouest.
Et ça a donné de bons résultats.
Ça a donné de bons résultats parce qu'on a éliminé la maladie dans 11 pays de l'OCP, le pays de l'Afrique de l'Ouest, mais également, il y a une deuxième stratégie qui est donc la chimioprévention. Et dans le cadre de traitement de l'oncocercose, c'est les traitements à l'ivermectine sous directive communautaire. C'est vraiment un large partenariat entre le gouvernement, le partenaire qui nous apporte un appui financier et technique, mais également les communautés. Parce que dans cette stratégie, la communauté est considérée comme un partenaire qui apporte quelque chose pour une bonne mise en œuvre de cette lutte.
Et donc, vous avez dit, oui, la prise du mectisant, on le prend à quel moment? C'est avant de, tous ceux qui habitent la zone où il y a des maringouins doivent prendre ces mectisants ou bien on le prend quand on est déjà malade?
Tout à fait. Il faut savoir que l'oncocercose, c'est une de maladies tropicales négligées qui, normalement, est vraiment combattue par la chimiothérapie préventive de masse. Mmh. C'est-à-dire, on ne fait pas de dépistage individuel. On fait plutôt un diagnostic communautaire qui consiste à une enquête communautaire à la recherche de signes spécifiques de la maladie, notamment le nodule sous-cutané. À l'issue de ces enquêtes, ça nous permet de déterminer la prévalence de la maladie au niveau de la communauté. Et par conséquent, ça nous permet d'estimer les conséquences de la maladie au niveau communautaire.
D'accord.
Et sur base de ce résultat, monsieur le journaliste, nous arrivons à déterminer la stratégie à appliquer. Soit nous organisons les campagnes de masse de distribution de médicaments, ou soit nous organisons les traitements individuels dans les hôpitaux.
D'accord. Voilà. Eloge nous appelle de Bounia. Je reviens à vous, docteur Gina, tout à l'heure. Eloge, bonjour. Eloge, vous êtes à Bounia?
Bonjour.
Oui, quelle est votre question?
Oui, je sais. J'ai une question que je voulais poser aux hôpitaux qui sont avec vous dans les studios.
Oui, quelle est la question?
La question c'est de savoir quelle est la plus attaquée par cette maladie.
Pardon?
Cette maladie attaque les enfants, les jeunes ou les vieux.
D'accord, vous voulez savoir si elle attaque les enfants, les vieux, tout le monde, les femmes. Docteur Gina, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Par rapport à Eloge, il faut dire que la maladie attaque tout le monde.
Tout le monde.
Dit que le fait d'être dans un milieu qui est endémique à cette maladie, le fait qu'on soit exposé aux piqûres de maringouins, de pipi, de mbitiri, en ce moment-là, on peut attraper la maladie.
Et je Platini de Mbandaka a eu peur lorsqu'on a dit que c'est la province.
Non.
Platini est parmi les provinces les plus affectées.
Il a même demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer. On a dit la seule chose c'est que dans ces zones où on soigne, que chaque personne puisse prendre chaque année son médicament. C'est juste ça. Ça veut dire qu'on donne pour ceux qui n'ont pas, donc qui viennent, qui sont dans ces milieux, ils n'ont pas la maladie. Ça c'est à titre préventif. Mais pour ceux qui ont déjà, même ceux qui manifestent des signes, comme l'a si bien dit, des signes, manifestations au niveau de la peau, quand vous prenez ça, vous allez voir vous-même, constater vous-même à la longue que tous ces signes-là disparaissent, les manifestations disparaissent effectivement.
D'accord. Et Jean-Pierre dit, est-ce que c'est une maladie incurable? Est-ce qu'on va réellement devenir aveugle ou pas?
Aveugle, comme l'a dit, c'est bien dit, c'est l'étape ultime de la maladie quand on ne se fait pas soigner.
D'accord.
Mais dès lors qu'on prend son médicament, on ne peut même pas devenir, on ne devient pas aveugle d'emblée. C'est le cumul, donc c'est-à-dire beaucoup d'années où on a de piqûres et puis sans traitement. Mais puisque le traitement est déjà disponible dans toutes les zones où la maladie est endémique, il suffit de prendre, donc vous ne pouvez même pas arriver à des stades d'aveugle, mais nous voulons prévenir ces stades. C'est pourquoi on invite tout le monde, effectivement, qui est dans cette zone endémique, de prendre son médicament chaque année. C'est la moindre des choses.
Même si on n'est pas malade, on prend le médicament.
La directrice a dit qu'ici, il y a des enquêtes qui ont été menées.
Oui.
Les enquêtes révèlent à un seuil que cette zone est endémique. Il faudrait, pour arriver à éliminer, il faut que toutes les personnes qui vivent dans cette zone puissent prendre la maladie, pour qu'ils ne puissent pas constituer un réservoir, donc une source de réinfectation pour les autres personnes qui vivent dans ces milieux.
Est-ce que c'est une maladie transmissible?
Transmissible. Bon, on a parlé d'un vecteur, il a parlé de la triade.
Oui.
À chaque fois que le vecteur aura à piquer des personnes qui ont donc de parasites et à piquer les autres. En ce moment, les cycles est là. Et il faudrait maintenant dans la chaîne casser quelque part la chaîne pour éviter cette transmission.
D'accord. Bien. Albert, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour aux invités.
Quelle est votre question?
Merci. J'ai deux petites questions à poser aux invités.
Oui.
La toute première question, je voudrais savoir, est-ce qu'une femme enceinte et qui a l'onchocercose peut-elle prendre l'ivermectine? Et la deuxième question, je voudrais demander aux invités quels sont les conseils que nos invités qui sont au plateau là peuvent prodiguer aux gens qui utilisent l'ivermectine d'une façon abusive là, comme pour tuer les poux sur la tête. Merci.
D'accord, merci. Amoury de Kamina, bonjour.
Bonjour, bonjour aussi aux deux invités, ainsi aux auditeurs de la radio communale, de l'OPAPI.
On vous écoute, Amoury.
J'avais une préoccupation à poser à notre invité, parce qu'il a parlé sur les problèmes des métisans. Les métisans, là, moi, je me souviens, une fois, on les vendait dans des pharmacies, sinon on a interdit de vendre ces produits-là. Alors que moi, j'avais une préoccupation. Chez une femme enceinte, donc qui a cette maladie, est-ce que peut-elle utiliser ces produits-là, et ces produits-là n'aura pas d'effet chez le fœtus?
D'accord, merci. Docteur Naomi, vous avez la parole.
Merci, Monsieur Albert. Je commencerai par dire que le métison doit être pris par toute personne qui vit dans un milieu endémique à la maladie. Mais sont exclus temporairement au traitement les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, le malade grave, mais aussi la femme allaitante dont l'enfant n'a pas encore atteint 7 jours. Ces quatre catégories de personnes sont exclues temporairement au traitement à l'ivermectine. Cela veut dire, lorsque cette femme enceinte a accouché, après 7 jours, elle peut prendre son métison. Le malade grave, lorsqu'il le rétablit, il peut aussi prendre son métison. Et l'enfant de moins de 5 ans, lorsqu'il atteint 5 ans, il peut maintenant prendre son métison.
D'accord. Alors, je vais juste à le temps d'accueillir Madame Pacifique de Kinshasa et on va poursuivre. Madame Pacifique, bonjour. Madame Pacifique, bonjour.
Bonjour, Monsieur Joly.
On vous écoute.
Bon, je disais ceci. J'écoutais les gens de santé ici à Kinshasa, mais moi, je n'ai jamais entendu parler de ça.
Entendu parler de quoi?
De ces gens de santé qui soigne cette maladie.
Oui.
Oui. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et autre chose.
On ne
peut pas faire une campagne pour ça. Et peut-être aussi, nous sommes juste au bord de la rivière Ndjili. Qu'est-ce qu'ils ont pour ça? Est-ce que nous pouvons être exposés aussi à ça? Je ne sais pas.
D'accord, vous êtes à bord de la rivière Ndjili. Docteur Gina, c'est lui qui s'occupe des activités à Kinshasa. Il va répondre à la question. Je reviens à Docteur Naomi. Il y a Amoury qui a demandé est-ce que le mectisan, ces produits-là, peut avoir des effets sur le fœtus. Vous avez dit que la femme enceinte ne doit pas prendre ce produit.
Tout à fait. Il est vraiment strictement interdit de donner ce médicament chez la femme enceinte pour éviter les effets tératogènes sur le fœtus.
Quels effets, par exemple?
Voilà. Rien ne prouve que ce médicament peut entraîner des effets tératogènes sur le fœtus. Mais vu que ce médicament, lors des essais cliniques, parce que tout médicament suit d'abord un processus de développement. Et si pendant le développement du médicament, on n'a pas fait des expériences sur les groupes spécifiques, notamment les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, avant de mettre le médicament sur le marché, il est demandé aux fabricants de clairement interdire à ces groupes spécifiques de prendre ce médicament. Et c'est dans ce contexte-là qu'il est interdit aux femmes enceintes de prendre l'ivermectine. Mais il n'y a pas de
preuve. L'ivermectine, c'est le même.
C'est le mectisane. Dénomination internationale de ce médicament, c'est l'ivermectine.
D'accord.
Mais qu'on appelle aussi communément mectisan. Ça, c'est un nom commercial.
Albert dit qu'il y a des gens qui prennent ces produits pour tuer les poux. Vous avez suivi tout à l'heure.
Je le suis, évidemment. Mm. C'est pour cela que je vais donner d'abord le bienfait de mes tisons. parce qu'il y en a beaucoup. En fait, le mectisant tue le microfilaire donc en cerca volvulus. Mm-hmm. Et par conséquent, nous éliminons donc un élément de la triade de transmission de la maladie qui est le parasite, l'oncocerca volvulus. Le mectisant prévient les symptômes de l'oncocercose. Je l'avais dit, les symptômes sont cutanés, mais également des symptômes oculaires. Le mectisant arrête la progression des symptômes et même les améliore. Le docteur Gina l'a dit, si la personne avait juste une baisse de vision, la personne peut recouvrer sa vision. Mais si la personne est déjà aveugle,
c'est fini.
Le mectisant ne peut rien faire. C'est pour cela, le mectisant est utilisé à but curatif et préventif en même temps. Et il est préférable, souhaitable, de prendre son mectisant avant de développer la manifestation de la maladie.
Le mectisant tue le pouls aussi.
Évidemment. Le mectisant tue également le pouls et expulse d'autres vers intestinaux.
Alors, mais est-ce
voilà un peu.
Mais est-ce qu'il faut le prendre à tort ou à travers? Il faut, c'est sur
pas
une prescription
tout.
Médicale. Si on a beaucoup de fous, on va rapidement à la pharmacie et acheter le mectisant.
Pas du tout, parce que le mectisant que nous recevons ce mectisant en donation. C'est le médicament qui nous est donné par le programme de donation de mectisant, PEDEM, pour les traitements exclusivement de l'oncocercose. Et ce médicament est gratuit. Ne doit pas être vendu dans le pharmacie. On ne peut pas trouver le mectisant dans le pharmacie.
D'accord. Docteur Gina, vous avez suivi Madame Pacifique, elle dit à Kinshasa, elle n'a jamais entendu parler des campagnes, tout ça, des zones de santé, et puis elle habite à côté de la rivière Ndjili. Est-ce qu'elle est, il y a des risques?
Bon, c'est vrai que pour la campagne, nous utilisons chaque année, donc, certains médias, donc, dont la radio Capi pour faire passer l'information. Mmh. Et nous mettons un accent particulier sur les trois zones qui sont concernées. On n'a pas dit que, en dehors de ces zones, quelqu'un peut ne pas avoir ça. Donc, ça voudrait dire que s'il y a un problème par rapport aux manifestations que nous venons d'expliquer ici, c'est question de voir donc d'aller chez un médecin. Et si le médecin estime que c'est un problème d'oncocercose et que vous habitez en dehors de ces zones où on donne gratuitement le médicament, c'est question de passer au programme. Vous passez au programme, il y aura une prise en charge, donc des prises en charge individuelles de cas.
Où se trouve le programme?
Le programme se trouve sur l'avenue de la Justice, dans l'enceinte donc de secrétariat général de la santé.
Okay.
Le programme se trouve là. Donc dans les zones endémiques, il faut prendre le traitement de masse qui est donné chaque année. Mais quand on est en dehors et qu'on pense qu'on a des manifestations, c'est question de voir donc un médecin qui peut renvoyer. Mais si c'est vraiment prouvé donc au niveau du programme, il y aura peut-être donc une prise en charge individuelle. Et si ça mérite le mectisant, on va donner gratuitement le médicament.
Et le médicament, c'est comment, quelle est la forme de ces médicaments et la prise se fait comment, docteur?
Le médicament, c'est un peu, donc c'est tout petit médicament, une forme donc ronde, nous pouvons dire. Ce sont de petits comprimés dosés à 3 mg, donc 3 mg. Et c'est donné pour le traitement de masse, c'est donné en fonction de la taille. En fonction donc de la taille. Donc effectivement, donc quand on a moins de 90 cm, on n'a pas de comprimé. Quand on a 90 cm jusqu'à 119, on a un comprimé. Mmh. Et 119 jusqu'à 120, on a deux comprimés. Et 121 jusqu'à 140, on a trois comprimés. Et puis bon, effectivement, quand on a supérieur ou égal à 158 cm, là effectivement, on a quatre comprimés. Dans ces sens-là. Mais voilà. C'est donné en fonction de la taille.
D'accord.
Donc ça voudrait dire que dans des zones endémiques, on doit passer toujours par le mesure. Donc on doit mesurer avec de toises que nous disposons. Donc nous mettons de toises et pour que donc les traitements soient adéquats, donc doit dépendre de la taille en fait.
Et c'est une prise à vie, donc il faut la prendre, pour ceux qui habitent dans les zones endémiques, il faut la prendre toute la vie ou quoi?
Dans les zones endémiques, il faudrait prendre au moins pendant 15 ans. C'est un traitement qu'il faut prendre régulièrement, annuellement, donc pendant au moins 15 ans qu'il faut prendre ces médicaments, espérer, parce que tout c'est la base de macro, donc de filaires qui ont grandi, sont des macrofilaires qui ne sont pas tués par les mectisants. Ils doivent vivre, eux, jusqu'à 15 ans, donc il faudrait que chaque personne puisse prendre au moins 15 ans pour espérer qu'il y aura, donc après 15 ans, que tout sera normalisé. C'est ce qu'on peut dire.
Mais certains disent que ce médicament a beaucoup d'effets secondaires. Docteur Gina.
Oui. Les effets, on a expliqué, donc les effets, il y a deux groupes d'effets. Il y a des effets qui sont secondaires attendus par rapport à la molécule. Quand on donne un médicament pour calmer peut-être la toux, on appelle les antihistaminiques, on a tendance à avoir un peu sommeil, donc l'effet sédatif. Et de la même manière, quand on prend le méctisan, on peut retrouver, comme on dit, maux de tête, un peu de petite démangeaison. Mais il y a donc ça, ce sont des effets secondaires qu'on appelle légers, donc qu'on retrouve. Mais il y a aussi deux cas. Si maintenant on est dans une zone où il y a cette condémicité, on peut avoir certains embêtements. Mais ce qui est vrai, c'est que comme la prise en charge est assurée à chaque niveau, quand on donne le méctisan, le personnel médical est là pour suivre les différents effets secondaires qui peuvent être là, maux de tête, faiblesse, et si donc fatigue. C'est là. Mais ça, c'est plus quand on a pris le méctisan pour la première fois. Quand on a déjà pris deuxième fois, vous ne verrez plus.
Et il y aura plus des effets secondaires. D'accord, on va terminer avec vous, docteur Naomi. Une fois, j'ai vu à Inga, dans le Bas-Congo, parce que ça me dit, ce côté-là, il y a aussi ce problème-là. Alors, les gens portent des chemises manches longues pour aller au champ. Donc, ils ont bien habillé tout ça pour éviter les piqûres des maringouins. Est-ce que c'est aussi une bonne façon de prévenir l'oncocercose?
Voilà, je pense que ça, c'est le bon sens. On l'a si bien dit que la maladie se transmet par la piqûre du vecteur, qui est la simili. Le gens se protège aux piqûres de simili. Parce qu'il faut bien indiquer que Inga est donc le site où on note les taux de piqûres le plus élevé au monde. Notamment
au monde.
13 300 piqûres hommes par jour de simili à Inga. Et bien entendu, c'est vraiment une nuisance qui est devenue insupportable pour cette population. Voilà pourquoi cette population se permet de se protéger par le port de chemises manches longues et même pour les jeunes filles qui vont à l'école, le port de chaussettes et même de bains pour se protéger. Mais le programme en collaboration avec la Société nationale d'électricité, nous avons eu à voir aussi un projet de la Banque mondiale qui va nous aider à mener une lutte antivectorielle pour réduire tant soit peu la nuisance sumélidienne à Inga d'ici là.
Bien, merci docteur Naomi Awatera, directrice nationale du programme de lutte contre l'oncocercose. Nous disons également merci à docteur Gina Ngumba, responsable des activités de lutte contre l'oncocercose à Kinshasa. À la prochaine.
Merci, monsieur Jody.